On est complètement dans les temps pour la fête des infos de Radio Canu. On est sur la partie où on va parler un peu de santé, de handicap, avec un membre de l'association Handipsilion. Voilà, deux. Écoute. Comment ?
Handipsilion 2.
Ah oui,
ouais, on peut dire les deux.
On peut dire les deux. Vas-y, du coup, est-ce que tu peux un peu nous présenter
Ouais, et ben nous, on a une association qui a été créée le 31 octobre 2019, le jour d'Halloween, hein, pour faire bien cliché.
C'est un signe, ça n'a rien
non,
à voir.
Non, alors on n'a pas choisi la date, hein, c'est la préfecture qui a choisi, mais ils ont sûrement dû se dire « Oh, des tarés, ça fait peur ». Non, je rigole. On est une asso étudiante rattachée à l'Université Lyon 2, mais tout le monde peut adhérer, étudiant ou étudiante ou pas. Et la majorité de nos activités ne se font pas du tout sur le campus ou forcément en rapport avec les études ou l'université. Et notre principale activité, c'est le réseau d'entraide. Alors on a essayé de monter un petit réseau de mise en lien pour s'entraider en dehors des institutions médico-sociales, pour regagner un peu de pouvoir et pour pas forcément toujours avoir besoin d'aller à l'hôpital ou d'avoir recours à des institutions coercitives pour pouvoir survivre. Donc on essaye de s'entraider sur les dossiers handicap, les dossiers MDPH qui est très complexe. On essaye de s'entraider pour un coup de main pour le ménage, par exemple à la maison quand ça devient compliqué, notamment parce que les handipsies ont encore moins accès en fait à la PCH, la prestation de compensation handicap qui permet d'empocher dans des auxiliaires de vie. Déjà qui est presque inaccessible cette PCH pour tous les handicapés, mais encore moins pour ce handicap-là. Et on essaye aussi de mettre en place des formations sur le validisme et le sanisme, qu'on peut aussi appeler la psychophobie.
Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est le sanisme notamment ?
Oui, alors c'est un terme qui est une traduction de sanism en anglais ou mentalism en anglais, qui est un terme... qu'on reprend en fait de la militante Judy Chamberlain, une militante canadienne pour la libération des psychiatrisés, qui a théorisé en fait pas mal le sanisme, qui est en fait le système social qui va exclure, organiser l'exclusion des personnes folles, psychiatrisées, voilà.
Du coup, si on différencie du validisme, le validisme ce serait pour tout type de handicap et le sanisme plus spécifique au handicap psychique.
Alors. Oui et non, parce qu'en fait, le sanisme, ça va en fait comprendre aussi ce que la psychiatrie définit comme de la folie. Et ça change en fait, selon les périodes, les époques, les contextes politiques, sociaux, etc. Il n'y a pas si longtemps que ça, les personnes LGBTI, elles sont encore psychiatrisées, mais là, c'était carrément inscrit que c'était un trouble mental, par exemple l'homosexualité qui est sortie du DSM dans les années 80. Donc en fait, à cette époque, les personnes... internées pour homosexualité étaient de fait folles. Peu importe si elles l'étaient vraiment ou pas. Mais voilà, nous, on est plutôt une asso pour les personnes qui ont vraiment des expériences psychiques, relationnelles, vraiment différentes et qui ont besoin d'adaptation de la société. Voilà. Sinon, dans notre asso, il y a trois statuts de membres. Si jamais vous voulez adhérer, en fait, on a les membres bénéficiaires qui sont là pour bénéficier des actions de l'association, qui ont aussi un pouvoir décisionnaire en fait sur les directions de l'association, parce qu'on a une asso collégiale. Il y a les membres pairs, P-A-I-R, qui sont concernés par le handicap psy et qui en même temps sont en mesure de venir en aide à d'autres personnes de par leur expérience et leurs connaissances. Et puis il y a les membres bénévoles qui sont, on va dire, en situation de validité psy et qui n'ont pas de pouvoir décisionnaire.
Ok, donc c'est une association auto-organisée par les concernés en fait.
Oui. Voilà. L'idée, c'était de construire en fait un espace d'échange, d'entraide et aussi de mise en commun de connaissances, de construction de connaissances en fait en dehors du système médical qui va tout pathologiser, qui va tout... Enfin, la psychiatrie, c'est quand même en fait un système de chantage. Si tu veux avoir la AAH, il faut forcément passer par la psychiatrie, par la médecine. Parce qu'en fait, dans le dossier MDPH, il y a un certificat médical à remplir. Et en fait, ça pose des problèmes pour les gens qui ont été psychiatrisés avant. Et qui, par exemple, là en ce moment, j'aide une personne qui, dans la psychiatre, donc en hôpital, refuse de remplir le dossier MDPH si la personne n'accepte pas d'être sous curatelle.
Oui, c'est vrai, chantage. Ouais.
Voilà. On a.
Le tableau.
Alors qu'en fait, c'est un droit. Les médecins n'ont pas le droit de refuser de remplir les certificats médicaux, mais en psychiatrie, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Et puis, la majorité. Enfin, quand on se parle entre nous, c'est la majorité en ligne. Même nos réunions, enfin, je veux dire, on n'a pas. On essaie au maximum de ne pas avoir d'exigence de présence, de productivité. Si des fois, l'asso, elle est morte pendant 2 mois, 3 mois, ben, c'est comme ça. On ne va pas foutre les gens en PLS alors que, justement, c'est l'inverse qu'on cherche à faire. Et voilà. Et puis, on est pas mal en lien aussi avec l'association La Marginale, qui est une association par et pour les personnes handicouir à Lyon, qui, l'année dernière, avait notamment permis d'avoir un char handi à la Pride de l'année dernière. Et qui a aussi beaucoup de dispositifs d'entraide. Que ce soit pour le dossier MDPH, ils ont des permanences tous les mercredis après-midi, que ce soit pour de l'écoute bienveillante, de la réduction des risques par rapport aux prod et aux médocs. Voilà. Et moi aussi, je peux avoir recours à mon asso ou aussi bien à La Marginale, et c'est très bien. Et plus on est nombreux, mieux c'est. Plus c'est divers, mieux c'est. Quoi. Et notamment avec La Marginale, l'année dernière, en décembre, on a organisé un marché de Noël handi-queer. Où en fait les artistes présents qui venaient vendre leurs œuvres ou leurs objets étaient tous handicouir et voilà, c'était cool, c'était un succès parce qu'on a organisé ça assez rapidement, on a été un peu pris de court et pourtant il y a eu beaucoup de monde, donc c'est super, on espère qu'on refera ça cette année peut-être. Et nous, pour le futur, déjà continuer d'exister, parce que c'est pas simple quand on est tous handicapés et qu'on a tous des vies très compliquées. Mais il y a de plus en plus de membres, donc c'est bien. Et puis pour l'année prochaine, enfin peut-être cet été, voire la rentrée de septembre, on est en train de préparer un club de lecture avec que des œuvres d'artistes handis ou des œuvres plus militantes et politiques pour les visibiliser. Et on essayera aussi de faire en sorte que cet espace il soit le plus accessible possible avec des casques anti-bruit, des audiobooks. Voilà, on essaiera de faire en sorte que ce soit un espace chill, qu'on puisse venir même si on se sent pas de forcément sociabiliser, etc. Ou venir sociabiliser. Voilà.
Et donc en fait, on voit que tu as déjà pas mal parlé de la question de la santé. C'était un peu pour ça qu'on s'est réunis aujourd'hui. Et donc, on aurait bien aimé te demander de dire, enfin, c'est quoi la santé? Comment ça se définit, en fait? C'est quoi son sens? Pourquoi on utilise ce mot? Ou pourquoi, par exemple, on pourrait lui en substituer d'autres?
Eh bien, en fait, c'est une question très complexe. Parce qu'en fait, la santé, ce n'est pas un absolu. Elle va toujours se définir en fonction de ce qui n'est pas la santé. Et donc, poser la question de c'est quoi la santé, ça revient à poser la question de ce qui est sain et ce qui n'est pas sain. Et en fait, ce qu'on considère comme sain, ça change selon les contextes, les époques, les lieux. Et puis, quand on pose le mot sain, forcément derrière, c'est pas objectif, quoi. Enfin, il va y avoir derrière des considérations morales sur le bien et sur le mal. D'ailleurs, ça se rejoint avec la construction du monstre, en fait, qui est souvent relié au validisme, à la psychophobie, etc., qu'on va sortir en fait de l'humanité limite les personnes handicapées et folles. Voilà, pour dire que définir la santé, c'est aussi définir ce qu'on considère à un moment T, dans un contexte précis. C'est quoi la santé? C'est quoi la maladie? Du coup, collectivement, comment on la définit, cette santé? Et comment ça pose la question aussi de l'accès aux soins, en fait. La santé, ça se construit collectivement, c'est pas une donnée fixe, naturelle. Et ça, c'est à mettre en lien, en fait, à reposer dans un contexte où, depuis la révolution industrielle et puis depuis le tournant néolibéral, notamment des années 80, on est bourré, en fait, d'injonctions à prendre soin personnellement, de sa santé individuellement, à atteindre un idéal, une norme de perfection sanitaire. Surtout qu'avec les tentatives récentes de scientifiser à fond la médecine, on a l'impression que ça doit être comme ça, peu importe les contextes, c'est vrai, ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Et donc, en fait, en faisant ça, on se trompe même sur ce que c'est la science, qui a vocation à toujours avancer, à toujours mettre en défaut la théorie précédente. Voilà. Mais on fait ça à l'échelle individuelle. Et donc, comme si c'était la responsabilité personnelle de chaque personne d'être en bonne santé. Donc, en gros, t'es malade, bah, c'est de ta faute. T'as pas assez mangé comme il faut, t'as pas fait de sport, t'as pas fait ce qu'il faut, quoi. Et quand on réfléchit comme ça, malheureusement, on efface complètement que la santé, c'est une responsabilité sociale qui pose des questions fondamentalement politiques.
Oui, et puis, comme tu le disais, ça se définit collectivement, c'est-à-dire que on a fait de ça un peu un capital individuel, ton capital de santé qui est mis en défaut. Tous les systèmes assurantiels, notamment sur la maladie, fonctionnent comme ça. Alors qu'en fait, c'est aussi un bien commun, c'est-à-dire qu'on est solidairement tenu par le système de santé, c'est-à-dire à la fois notre santé générale, on le voit beaucoup en période pandémique, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais aussi par le système médical qu'on a mis en place pour nous venir en aide, quoi. Et en fait, cette solidarité-là, elle est complètement un peu battue en brèche par cette individualisation permanente.
Ça, déjà. Et puis surtout, on efface que la santé... Bah, c'est lié par exemple au travail, tout simplement. Le travail tue, le travail rend malade, rend handicapé. Et même quand on est handicapé de naissance ou malade chronique de naissance, il y a un système social qui fait qu'on va être discriminé dans tous les aspects de la vie parce que la société est organisée selon une norme qui va encourager en fait à la mise au travail.
Je pense qu'il y a ce truc-là de ce que tu disais entre le sain, le malade, et puis il y a ce mouvement qui se développe de plus en plus, alors qu'il est un peu à double tranchant dans le soin en psychiatrie. C'est ce mouvement du rétablissement qui peut, alors aussi bien, je trouve, remettre la personne justement au sein de la société. Comme vous êtes citoyen, vous n'êtes pas que porteur de telle ou telle difficulté ou maladie, mais vous êtes citoyen autant que n'importe qui. Et comment est-ce que vous arrivez et comment est-ce que c'est possible d'accompagner la personne pour être au plus près de ce dont elle voudrait, travail, famille, etc., enfin, études, logement,
bon. Ou oisiveté.
Oisiveté. Et aussi l'autre pendant qui est, je trouve aussi extrêmement économique et politique, etc., qui est dans ce que tu disais tout à l'heure, le fait que, bah, du coup, si t'es malade et que t'es pas bien, c'est toi qui es responsable.
Ouais.
D'en te remettre la responsabilité exclusivement sur toi en essayant de. On voit bien les hôpitaux, d'avoir ce mouvement-là de. On est là que si vraiment il y a besoin et une urgence vitale. Mais sinon, démerdez-vous dans la société, en fait, avec ce que vous êtes et qui y a autour de vous.
Oui, en fait, le rétablissement, donc, c'est la philosophie du rétablissement.
Voilà, il y a la philosophie, puis il y a la mise en pratique.
Voilà, la mise en pratique, c'est les services de réhabilitation psychosociale dans les HP. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que, donc déjà, on va dire qu'on va prendre le moins pire. Moi, c'est sûr que si je devrais choisir, je préférerais la réhabilitation psychosociale parce qu'en fait, on s'intéresse individuellement aux difficultés individuelles de la personne. On essaye de trouver des parades pour que la personne s'en sorte au quotidien avec des techniques, etc. La remédiation cognitive, par exemple. Le problème de ça, c'est qu'en fait, on prend la personne et puis on efface en fait tout son contexte et d'où viennent ses problèmes et c'est en fait ça, c'est aussi parce que la psychiatrie elle s'est appropriée en fait des savoirs expérientiels et des savoirs militants pour mieux les avaler et mieux les ressortir sans questionner profondément notre société.
Donc, voilà. Ouais, et puis du coup se nourrir de ces connaissances là pour essayer de protocoliser des accompagnements de soins qui justement amène effectivement à redécontextualiser la personne dans son vide. Ça fait un peu le lien, du coup, quand même, parce qu'on en revient à la santé et puis au pouvoir médical, qui est certes se déconstruit, je trouve, socialement un peu, parce que tout le monde peut aller chercher des informations un peu partout, mais du coup, un peu n'importe comment aussi. Et du coup, il y a quand même ce pouvoir médical qui est, au niveau institutionnel et de la santé, magistral. C'est eux qui ont le premier mot, c'est eux qui ont le dernier mot, et c'est eux qui font que ça bouge ou pas, quoi. Et souvent, ils ne prennent pas beaucoup la parole pour que ça bouge aussi dans un sens du soin, on va dire.
Ouais, bon, il y a vite fait des médecins quand même qui sont politisés, plutôt à gauche, etc. Mais bon,
heureusement.
Vite fait. Hein. parce qu'en fait, voilà, qui c'est qui décide de ce qui est sain et de ce qui est malade? C'est le pouvoir médical. Et ça, ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes parce qu'on est dans une république qui va nous... qui a des mythes, en fait. Des mythes républicains comme la police défend la veuve et l'orphelin, où les profs forment des futurs citoyens éclairés et les médecins sauvent des vies, peu importe de quelle ville il s'agit. Et ben, c'est faux. La vérité, c'est que les médecins, ils effectuent un tri constant entre les corps à sauver et les corps qui ne mériteraient pas d'être sauvés. Et ben, on voit ça avec les discriminations raciales en santé, on voit ça avec les discriminations sexistes, les discriminations LGBTI-phobes et validistes.
Et précaires aussi.
Oui, bien sûr. Classistes, on va dire. Dans l'accès aux soins. Et puis, en plus de ça, la médecine, elle s'est construite historiquement elle a construit ses catégories sociales comme étant pathogènes, en fait, comme étant malades de nature et comme handicapées, en fait. Oui, voilà.
C'est vrai.
Oui, voilà. Et même quand il y a des scandales énormes dans le milieu médical, je pense dernièrement, le scandale le plus... Enfin, il y a des scandales tout le temps et en permanence et tous les jours, mais celui qui était beaucoup médiatisé et qui vraiment, moi, m'a marqué, c'est le scandale du charnier de Paris Descartes. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle.
Est-ce que tu peux expliquer, rappeler vite fait ce que c'est?
Oui, en fait, c'est, donc, il me semble que c'est un hôpital universitaire. Et quand les gens décident, avant leur mort, de donner leur corps à la science, à la médecine, pour la recherche, en fait, on envoie leur corps dans ce charnier. Et en fait, il y a des tas et des tas de corps qui pourrissent et qui ont total manque de dignité. Il paraît qu'il y a des témoignages qui racontent qu'il y avait des soignants qui jouaient au foot avec les têtes de ces personnes décédées.
Voilà, c'est vrai que ça peut être sujet à un tas de fantasmes, je pense, ce genre de découverte-là.
Oui, enfin, de fantasmes peut-être, mais en tout cas que la médecine, c'est pas le garant de la dignité humaine, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le contraire. Voilà. Je fais des affirmations clivantes comme ça, mais je pense que c'est important de les faire quand même.
Mais cette histoire de charnier, elle est intéressante parce que quand même, au lieu de vraiment traiter l'affaire, ce qui a été fait, c'est que l'université a changé de nom par la suite pour ne plus être associé à cette réalité de quand même ce charnier a existé, c'est un fait avéré. Mmh. Et plutôt que de travailler dessus, il y a quand même eu cette solution aussi qui a été assez vite mise en place de dire « Ah bah tiens, on n'a qu'à changer de nom, comme ça ce sera plus nous et cette histoire-là qui leur appartenait aussi. » Du coup, ils s'en dissocient assez largement par un petit soubresaut de « Ah, Descartes, ça n'existe plus. » Ou je ne sais plus si c'est Descartes le nouveau, mais peu importe. Mmh. En tout cas, de changer de nom, et finalement, ça c'était nous, mais c'est plus nous, ça. Nous, on n'a pas fait ça.
Ouais, et puis cette histoire, elle est révélatrice, en fait, du problème, en fait, que j'essaye de poser ici, aujourd'hui. Mmh. C'est que derrière, en fait, un vernis scientifique, la médecine, elle s'auto-absout de graves atteintes à la dignité et aux droits des personnes. Parce que la science, quoi. Comme si la science, c'était pas justement de dépasser, en fait, d'aller toujours plus loin. Et puis aussi, ça pose problème de définir la médecine comme une science pure, parce que la médecine, c'est pas une science pure, c'est d'abord un art, une pratique, une relation avec les patients. Et ça, malheureusement, depuis quelques décennies, c'est complètement passé à la trappe, quoi.
Mmh. Et c'est particulièrement visible en psychiatrie avec l'explosion des traitements médicamenteux, quoi.
Oui, enfin, comme étant automatique et sans réel consentement libre et éclairé sur c'est quoi cette molécule, à quoi elle sert, à quoi elle peut prétendre, est-ce qu'il y a une addiction, une accoutumance, est-ce qu'il va y avoir un sevrage, quels sont les effets secondaires, etc.
Sans accompagnement proposé par ailleurs, surtout de juste donner les médicaments, ça soigne comme si on allait soigner comme ça, juste avec les médicaments qui peuvent aider des personnes par ailleurs aussi dans leur quotidien, mais que ça ne peut pas être une réponse magique et surtout pas unique. De médicaments T, pardon, n'importe qui, comme ça, en se disant « Ah bah ça y est, le problème est réglé, les molécules sont là. »
Oui, parce qu'en fait, il y a la grande croyance établie qu'il y a un déséquilibre chimique dans le cerveau et donc les schizophrènes, ils ont trop de dopamine, donc il faut couper la dopamine dans le cerveau. la sérotonine pour les dépressifs, il me semble. Enfin bon, voilà, il y a ces idées-là. Le problème étant que quand on veut un psychiatre ou même un généraliste prescrire un antipsychotique ou un antidépresseur, je connais aucune personne à qui on a testé ces taux-là avant de les donner, et à qui on a fait, enfin qui a vraiment un suivi organique biologique derrière. J'en connais pas. Voilà. Alors peut-être que ça existe, mais
oui, au pire, il y a des suivis biologiques pour prévenir des effets secondaires de certains neuroleptiques. Mais du coup, c'est des effets secondaires. Donc, on n'est pas du tout sur le biologique d'avant le traitement, en fait.
Oui, et puis aussi, on remarque un vrai fossé entre l'expérience de ces traitements-là, quand on les prend tous les jours sur plusieurs années. Et puis, souvent, on a des effets secondaires impressionnants. Il y a un sevrage très difficile à faire. Et la vérité scientifique, entre guillemets, des psychiatres qui vont nous dire « Non, il n'y a pas de sevrage, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez ». Et puis, bah, OK, on fait ça. Et puis, on se retrouve pendant 2 mois à galérer, quoi. Et à se mettre en danger, en fait. Quand on a le choix d'arrêter le médicament, parce que des fois, il y a des obligations de soins, donc voilà.
Et du coup, on voit bien quand même l'immense pouvoir ou magistral, comme disait Diane, dont bénéficient les professionnels de santé, en particulier les médecins, mais c'est surtout structurel et comment on est organisé autour de la santé, autour de cette médecine qui vient tout décider. Et du coup, vous, à Antipsy Lyon 2, vous portez quand même des idées de lutte anti-psy. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, nous expliquer ce que c'est, comment ça marche, comment vous le portez, comment vous voyez la chose?
Ouais, alors on peut dire qu'on a quand même, on s'inscrit dans l'héritage des luttes anti-psy, anti-fol, dans l'idée qu'on essaie de promouvoir au maximum la pérédance en dehors des institutions médicales, sociales. Et la pérédance, en fait, a été un outil de lutte hyper important historiquement dans les luttes anti-psy. L'idée, c'est d'abolir en fait la relation de pouvoir entre soignants et soignés. Et qu'il n'y ait plus en fait cette distinction nette entre la blouse blanche et le pyjama bleu, quoi. Et qu'on puisse collectivement penser comment gérer une crise, par exemple, de quoi la personne a besoin, sans forcément qu'il y ait une relation de pouvoir. Alors, je ne dis pas que c'est idéal, que c'est forcément ça va marcher, que c'est possible, etc. Déjà, on ne l'a pas vraiment testé à une grande échelle avec des vrais moyens, etc. Mais déjà l'idée qu'il n'y a pas de contraintes, hein, qu'il n'y a pas de soins contraints, il n'y a pas d'isolement, il n'y a pas de contention, il n'y a pas d'injection de calmant en cas de crise avec 4 bonhommes qui tombent dessus pour aller t'attacher au lit, quoi. Donc, déjà, grosse différence. Je ne dis pas que c'est comme ça dans tous les HP, mais bon, il y a des gens quand même qui ont vécu ça et qui maintenant essayent de se tourner vers la pérédance. Ça pose aussi des problèmes parce qu'on n'est pas tous outillés pareil, on n'a pas tous les mêmes expériences et on n'a pas tous les mêmes connaissances. Et du coup, ça demande vraiment une autogestion et une organisation politique de se réunir, de poser les vrais problèmes, de construire en fait vraiment au quotidien ce genre de choses pour éviter les dérives, pour éviter de reproduire aussi des discriminations dans nos groupes, etc.
Et est-ce que parce que là, au niveau de la santé, on va dire, il y a des choses qui commencent un peu à se travailler sur peut-être la création de lieux de répit qui serait une alternative à l'hospitalisation en psychiatrie. Moi, je suis allée voir celui de Marseille, c'était vraiment intéressant. Mm-hmm. Et puis, il y a les directives anticipées aussi qui peuvent se travailler de plus en plus avec les gens. Alors, pas au moment du tout de la crise. Parce qu'il faut pouvoir poser les choses avec... Enfin, il faut que la personne puisse être en capacité. Mais du coup, ça aussi, c'est quelque chose dont vous parlez dans ces rencontres que vous pouvez vous faire ou à l'intérieur de votre association.
Oui, il y a des gens qui... Enfin, on essaye de s'entraider justement pour remplir nos plans de crise conjointe, nos directives anticipées, etc. De quoi tu m'as parlé juste avant ?
C'était le lieu de répit. Oui, enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui va peut-être un peu se construire à Lyon. Donc, je trouvais que c'était intéressant, vraiment.
Oui, c'est la lutte anti-psy qui essaie de promouvoir ces lieux alternatifs. Malheureusement, par exemple, le lieu de Marseille, il y a un reportage sur YouTube, si jamais vous voulez aller regarder ce que c'est. C'est super intéressant, mais même dans ces lieux-là, donc déjà, il n'y a que 10 places. Donc voilà.
C'est une expérimentation, en fait.
Oui. Le début, alors, et le docteur qui est responsable de Sudelia, ce n'est pas un docteur en médecine, c'est un docteur en anthropologie. Déjà, on voit qu'on a une différente approche du problème. Mmh. Et puis, malheureusement, ça ne peut pas être totalement séparé de la psychiatrie parce qu'à l'intérieur de ce lieu, il y a des personnes sous obligation de soins. Mmh. Donc, pas le choix.
L'obligation de soins, tu peux préciser exactement ce que ça concerne ?
Ah, c'est quand, en fait, on n'a pas le choix. En fait, on n'a pas le choix que d'être hospitalisé ou en hôpital de jour ou de suivre un suivi en CMP, centre médico-psychologique, et de prendre des médicaments, etc., avec derrière la justice, quoi.
C'est une injonction de
justice. Il y a la contrainte de soins et l'obligation de soins qui est une décision judiciaire.
Judiciaire, mais c'est le psychiatre qui...
qui l'apporte.
Voilà.
En tout cas,
Il y a un total déséquilibre là-dedans. Enfin, c'est le psychiatre qui remplit les papiers et peu importe la réalité de la situation.
Donc, le psychiatre incarne à ce moment-là à la fois la police et la justice en termes de fonction, quoi.
Bah, il est l'outil de la justice, en fait, je pense, à ce moment-là.
Ouais. C'est le psychiatre qui produit les papiers, c'est la justice qui vient statuer sur le fait que l'obligation sera menée ou pas, mais sur la base de ce que dit le psychiatre et normalement sur la base de ce que dit la personne. Mais on voit bien que les rapports de pouvoir sont tellement déséquilibrés que le psychiatre a quand même un pouvoir infiniment supérieur à la personne, surtout quand c'est la justice qui écoute.
Oui, c'est ça. Mmh. Oui. Surtout qu'on va pathologiser, par exemple, le fait de ne pas travailler ou d'avoir eu des mauvaises notes à l'adolescence. Voilà. Hein, ou d'être trans. Ou voilà, il y a des personnes qui se retrouvent des années enfermées ou alors sous obligation de soins à l'extérieur. Et c'est hyper dur d'en sortir. Pareil pour la curatelle renforcée et la tutelle. C'est un enfer judiciaire. C'est...
Excuse-moi, j'étais un petit peu coupé dans ton élan. C'était en train d'expliquer qu'effectivement, dans les lieux qui se basent sur l'antipsie, c'est difficile pour les personnes qui sont en obligation de soins. Elles sont pas trop.
Oui, mais parce que je prenais l'exemple du lieu de répit de Marseille. Mais voilà, quand tu es sous obligation de soins, tu peux pas avoir un idéal politique pur comme ça. Voilà. Il y a aussi des contraintes pragmatiques. Et même pour les gens qui sont pas sous obligation de soins, l'antipsie, c'est pas on coupe les médocs, on coupe les. Non, c'est on réfléchit collectivement, politiquement, nos revendications et nos besoins. Voilà.
Les questions les revendications antipsie, c'est encore des choses qui sont assez fortes aujourd'hui, parce que dans l'imaginaire commun, c'est assez renvoyé aux années 70-80. Mm-hmm. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est assez fort aujourd'hui, ou est-ce que ça a été en partie déserté, notamment parce qu'il y avait beaucoup de soignants qui s'étaient quand même posé ces questions-là, qui étaient impliqués dans ces choses-là? Est-ce que ça existe encore de manière un peu ambitieuse?
Alors, on ramène ça aux années 70 parce que Foucault et parce qu'il y a eu des psychiatres qui se définissaient antipsie, etc. Mais en fait, ça existe depuis que la psychiatrie existe, donc depuis le 19e siècle, la révolution industrielle. Il y a par exemple un journal d'un malade enfermé à Bicêtre à Paris en 1893 ou 73, je ne sais plus exactement, qui était écrit à la main, reproduit à l'alcool par ce patient, et qui s'appelle l'anti-aliéniste. Et qui était en fait un ancêtre antipsie. Voilà, donc en fait, il y a toujours cette gap entre l'antipsie des psychiatrisés et l'antipsie des psychiatres. Et puis, aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu un début de nouvelle vague par justement des personnes directement concernées. Et il y a aussi des médecins, je pense à Mathieu Bellassène notamment, qui écrit souvent sur Mediapart, qui est plus dans cette mouvance-là. Mais ça commence à peine à renaître. Et il y a quand même eu, pendant le moment des airs, on va dire, il y a quand même le site Zinzinzine qui a fait beaucoup pour diffuser des textes, pour avoir des brochures, des ressources pour se défendre, etc.
Vous pouvez trouver ça sur zinzinzine.net.
Oui.
Moi, j'ai l'impression que ce mouvement anti-psy, il a pu s'atténuer, en tout cas, parce qu'il y a eu... de plus en plus la présence d'usagers de la psychiatrie dans les groupes de réflexion autour de l'hôpital. Pour le plan territorial en santé mentale, il y a 2-3 ans, là, pareil, il y avait aussi la présence des usagers de la psychiatrie. Il y a les formations pairs, travailleurs pairs, qui arrivent petit à petit dans les services, etc. Donc, n'y a plus le dedans-dehors, en fait. C'est que maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même cette volonté d'ouvrir les portes de la discussion aux usagers de la psychiatrie. Et c'est écrit. Et en fait, on ne peut pas faire sans maintenant, quoi. Enfin, ils sont dans les textes. Et du coup, toute chose qui est organisée ou pensée, il y a les usagers de la psychiatrie qui peuvent être invités ou conviés. Ou,
ouais,
voilà.
Bon, d'accord, mais
c'est la théorie.
Oui, hein. C'est la théorie. Dans les faits, et après, moi, c'est très bien qu'il y a des pères aidants professionnels, etc. Mais ça pose aussi des questions politiques, parce que c'est aussi une forme de récupération par la psychiatrie pour effacer en fait le caractère, l'origine en fait de ce terme et de cette position. On peut aussi avoir une réflexion un peu politique et un peu plus poussée, notamment à gauche, et ça manque vraiment beaucoup, sur le fait que la psychiatrie, c'est aussi un bras armé de l'État pour la mise au travail et pour l'exclusion de tous les déviants selon certaines normes. Voilà. L'idée, c'est que en fait, le sanisme va pathologiser toutes les personnes qui contreviennent à l'ordre productif capitaliste, donc qui ne vont pas être assez productifs ou qui ne peuvent pas être productifs. Et qui contreviennent aussi à l'ordre de reproduction hétéropatriarcale. Et c'est pour ça qu'il y a autant de psychiatrisation des personnes LGBTI et des femmes qu'on peut dire que le diagnostic borderline, c'est un peu un rebranding de l'hystérie. Voilà.
Eh bien, on voulait vous parler aussi du Covid, mais malheureusement, le temps file et on n'aura pas le temps de pouvoir échanger là-dessus. En tout cas, si tu as un petit mot de la fin, si tu veux conclure, rappeler où est-ce qu'on peut retrouver
Andy
Psy
Lyon
2.
Ça, les contacts et tout ça.
Alors, on est notamment sur Facebook et Twitter. Facebook, c'est @assohpl2 et Twitter, c'est @andypsy2. On est aussi sur Insta, mais l'Insta est un peu pas actif. Et on a une adresse mail, c'est assohandypsylyon2@gmail.com. Voilà.
Et puis, on mettra un certain nombre de ressources en ligne quand cette longue journée du Canu Info sera podcastable. Je n'ai pas exactement le programme sous les yeux, mais on va rendre l'antenne. Merci beaucoup d'être venu.
Moi, merci de m'avoir
invité. Super de discuter ce sujet-là.
Merci d'être venu.
On continue cet après-midi en direct sur le 102.2 FM et de la place Satonafi.